sa bouche, bouche de métro. Les bateaux mouchés, la couleur de l'eau. C'est fini, Paris. Je les connais tous. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit. On dit que ces villes s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la ville s'éveille.
Chose à ajouter sur les JO?
Non.
Ok, merci.
Non, je suis pas très douée en interview. Hein. Ah non, m'enregistrez pas ça.
Est-ce qu'on le bêtisier?
Ah oh non, pas le bêtisier.
Vous êtes bien sûr Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez nous écouter sur 89.4 FM, également sur le site internet de la radio www.fédération-anarchiste.org. L'émission s'appelle
Au-delà du RL.
Voilà, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois entre 19h et 21h. Allez, c'est parti.
Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport.
War is peace. Freedom is slavery.
It was the police patrol.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's
windows. Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Bonsoir. Vous êtes bien dans les Amis d'Orwell. Nous sommes en direct ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en direct. En direct avec trois invités, deux en plateau à côté de moi. Et une troisième personne au téléphone tout à l'heure, que nous allons appeler dans un instant. À la technique ce soir, c'est Guy qui nous donne un petit coup de main. Merci camarade. Le thème du jour, dans les Amis d'Orwell, c'est le plateau de Saclay et son complexe techno-universitaire qui a dévasté, et qui continue de dévaster d'ailleurs, le sud de Paris. Ça se trouve en gros dans l'Essonne, autour de l'université d'Orsay. Nous abordons ce thème en partenariat avec le journal Le Chiffon, comme nous l'annoncions il y a deux semaines. Le Chiffon, c'est le journal de Paname et sa banlieue, un sympathique trimestriel dont le 13e numéro vient de sortir fin mai. En une, il y a un titre qui donne la couleur, Silicon Saclay, numérique, génomique, quantique et pompe à fric. En studio autour de moi, j'ai Emmanuel et Valentin. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Et tout à l'heure, donc, au téléphone, nous aurons Estelle. Donc, tous les trois, vous avez écrit un article dans le numéro 13 du Chiffon. Donc, Emmanuel, toi, tu as signé un papier sur l'écosystème technoscientifique. Hein, le titre de ton article, « Du nucléaire au quantique ». De quoi Paris-Saclay est-il le nom ? Valentin, toi, tu as mis les mains, sans doute les pieds aussi, dans le marigot de l'informatique profonde, ce qu'on appelle plus gentiment l'intelligence artificielle. Le titre de ton papier, à la recherche de l'IA pour la planète. Et Estelle, elle aussi contributrice du Chiffon, donc a signé un article sur l'agroécologie qui se fait tout autant colonisée par le gros foutoir numérique. D'abord, pour commencer, Valentin, est-ce que tu peux nous faire un petit, je sais pas, un petit profil, une petite présentation du journal en question?
Ouais, alors le Chiffon, c'est un journal qui a 3 ans maintenant, qui a été créé au départ sur un constat, c'est qu'en fait, il y a de la presse locale indépendante qui existe un petit peu aux quatre coins de la France.
Ouais, donc chaque grande région a son petit canard.
Voilà, exactement.
Et, son petit vilain canard.
Cette espèce de grande région d'Île-de-France avec 10 millions de personnes dedans, il n'y en a pas. Donc, pourquoi ne pas investir ce gros vide et tenter de faire l'inverse du Parisien, c'est-à-dire partir d'objets concrets et puis essayer de remonter un petit peu par l'enquête et puis l'apport de pensées critiques, que ça vienne des champs de la sociologie, de l'ethnologie, etc., pour essayer de penser un petit peu ces espèces de grands phénomènes, ces grands aménagements qui modèlent la vie des franciliens depuis des décennies. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tous les 3 mois, donc 20 pages. C'est un journal papier, ça c'est important.
C'est format journal, hein, c'est-à-dire format...
Ouais.
C'est ça qu'on appelle le tabloïd, non? C'est pas ça? Non.
Alors là, franchement, là, tu...
Donc, format Charlie, quoi. Format ciné-hebdo, ciné-mensuel. Et puis, la maquette, j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Des fois, il y a des articles où le texte est très serré, mais il y a beaucoup de respiration, comme on dit, et beaucoup de dessins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos, mais c'est mieux, d'ailleurs, qu'il y ait des dessins. Et très figuratif, des fois, c'est assez trash. Et donc vous collaborez régulièrement tous les deux, comment ça se passe?
Je te laisserai répondre, Emmanuel.
Moi je suis un collaborateur occasionnel, je suis un lecteur du Chiffon. Je vois ce journal se vendre dans des contextes un peu militants de ci, de là. Et là c'est la première fois qu'on m'a sollicité pour écrire.
Donc, lecteur devenu contributeur.
Voilà.
Ouais, c'est un journal qui reste ouvert, assez organique un petit peu dans les contributions. Alors, tu as mentionné le travail d'illustration avec des super... Je vais peut-être pas tout décrire et faire des hiérarchies entre les...
Ouais, surtout les radio d'écrire des dessins.
Voilà, en plus. Mais on a plein d'illustrateurs qui nourrissent le journal et qui en font cet objet. Parce que c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'on a choisi d'avoir un objet physique, papier, pour aller aussi à rebours de ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire une espèce de fausse info dans l'actu la plus rapide possible, numérisée. Et donc c'est un objet papier qu'on distribue en manif, dans des événements, dans des lieux amis. Pour l'instant, le réassort des lieux partenaires, il se fait toujours avec un vélo cargo.
C'est ça, ouais.
Donc, on est sur un objet physique qui est fait pour être...
Quand on est indépendant, effectivement, il faut toujours s'occuper aussi, de manière indépendante, de la distribution.
Ouais.
Parce que si vous passez par... je sais pas, il y a des boîtes qui s'en occupent, hein, notamment qui peuvent vous diffuser en librairie, mais c'est quand même assez cher. C'est des réseaux, une fois qu'on met la main dedans, c'est difficile de s'en sortir. Donc là, vous avez une liste en page 2, des librairies de la région parisienne qui sont vos partenaires, qui là on peut trouver le journal régulièrement. Et comme tu disais, il y a aussi des lieux, hein, comme des COP, la Dionicop de la gare à Saint-Denis, par exemple, ou la commune d'Aligre, qu'on connaît très bien, l'association qui est dans le 12e arrondissement. Donc il y a 20 pages, comme tu me disais, et là, vous faites la une sur Silicon Saclay. Donc l'illustrateur de la une, on va le citer, parce qu'il s'appelle Léo Alcaraz. Et il y a aussi pas mal de petites rubriques rigolotes. On va voir tout à l'heure en détail, après avoir discuté du plateau de Saclay et du cœur de votre dossier, on évoquera d'autres articles un peu plus légers, on va dire. Combien ça coûte ?
Ça coûte 4 euros. Mais en fait, quand on est en manif ou qu'on se rend compte, c'est à prix libre.
Ouais.
Voilà, bah bon, vous savez comment ça marche, hein, il faut quand même payer le papier et puis deux, trois petits coups annexes de maquettage, etc. Après, tous les contributeurs textes et les illustrateurs sont pas rémunérés, donc on est vraiment sur un objet avec plein de contributeurs et de bonne volonté, quoi. Et sur 4 euros, franchement, pour 20 pages tous les 3 mois, bon voilà, ça reste abordable.
Ouais, et puis effectivement, si c'est après libre dans les conditions un peu d'une manif, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ? En première page, il y a un petit macaron rigolo.
Ouais, alors on a essayé de lancer ce label-là, parce que bon, il y a les labels, les entreprises se créent des auto-labels tous les jours, donc pourquoi pas créer le nôtre ? Donc c'est le seul journal qui est certifié sans IA, voilà. Par Cédric Villani, hein, évidemment, tout ça a été certifié avec un processus ISO, etc. Hein,
Cédric Villani, on peut rappeler qui c'est, puisque c'est un personnage comme assez central dans ce sujet-là.
Vas-y Manuel.
Cédric Villani, c'est quelqu'un qui a fait une première carrière dans les mathématiques. Il est devenu extrêmement célèbre. Il a eu un prix très prestigieux.
La médaille Fields.
Et ensuite, donc, il a fait beaucoup de vulgarisation des sciences, etc. Ça l'a conduit à la politique, peut-être par des canaux que vous connaissez mieux que moi. J'ai le sentiment qu'il a été repéré dans une sorte d'organisme américain, je crois, qui repère des futurs leaders. C'est dans ce contexte-là qu'il aurait rencontré Macron. Arrêtez-moi si je dis des bêtises.
C'est la même promotion.
Voilà. Et donc, de fil en aiguille, il s'est retrouvé dans la Macronie. Et puis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir observer vraiment en direct live, son retournement à 180 degrés.
180.
Oui, complètement, oui. C'est très étonnant. Donc, c'était sur la petite ZAD du plateau de Saclay. Un jour, il est arrivé avec son petit vélo lors d'un débat.
Saclay, on a fait un petit sujet il y a deux
ans. Et donc, il est arrivé avec son assistant parlementaire. À l'époque, il était député. Et il a promis de s'intéresser, alors qu'il était un fervent partisan de l'urbanisation dont on va parler tout de suite, il a promis de s'intéresser au paradoxe de la ligne 18 et au fait qu'elle est en fait finalement pas tellement justifiée par aucun point de vue. Et quelques jours après, il a publié un communiqué comme quoi il était devenu opposant à sa continuation là, à travers les terres agricoles.
Devenu écolo, quoi, c'est ça que ça veut dire.
Voilà, et puis alors du coup il s'est fâché avec Macron, donc on va pas te raconter toute l'histoire, mais il est devenu maintenant un militant écologiste, on a, je pense, proche de Delphine Bateau, dernière nouvelle.
Voilà. Mm-hmm. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'articles dans le cadre de ce dossier. Et, alors, on va essayer de parler tout de suite à Estelle. Je sais pas si elle nous reçoit, si on peut la mettre à l'antenne, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct, donc on n'a pas encore tous nos automatismes. Est-ce que Estelle nous entend ?
Oui, je regarde si ça passe chez nous.
Parce que Estelle, alors elle travaille sur le plateau depuis des années, depuis même presque 30 ans, d'après ce qu'elle m'a dit, hein, je ne veux pas manger, mais c'est un peu ce qu'elle m'a dit. Et elle a fait un article « Vers une agroécologie sans champs ni agriculteurs » avec un point d'interrogation. Il est question justement de projets de recherche pour mêler la recherche agronomique avec toute la foire numérique.
C'est pareil, non ? Attends, je vais appuyer pour voir.
Oui. Ouais, je crois qu'elle est là. Estelle ?
Oui, je suis là, oui.
Ok, super. Alors, Donc toi, tu as signé cet article, mais t'es pas journaliste, je crois. Hein. C'est pas ton métier, c'est ton cœur de métier.
Non, pas du tout. D'habitude, j'écris plutôt des articles scientifiques. Je suis chercheuse.
C'est ça, tu es chercheuse. Donc à l'INRAE, donc c'est l'Institut National de Recherche Agronomique qui a rajouté un petit E à la fin il y a quelques années, pour environnement évidemment. Parle-nous un petit peu, pour commencer, de l'histoire un petit peu de la recherche agronomique sur le pathotech. Je crois que ça fait quand même quelques dizaines d'années que ça existe.
Oui, tout à fait. En fait, il y a un petit laboratoire, une unité mixte de recherche commune entre l'INRAE, l'université, au départ l'université d'Orsay, le CNRS et AgroParisTech, qui est sur le plateau depuis quasiment les années 80, avec un objectif de faire des recherches assez appliquées, puisqu'il y avait un dispositif expérimental de près d'une centaine d'hectares autour pour pouvoir expérimenter les recherches en direct dans les champs.
96 hectares de terre fertile du côté de Gif-sur-Yvette, c'est ça ?
Voilà. Ouais. Donc c'est pas récent. Et donc ces laboratoires, ils se trouvaient dans une ancienne ferme, une ancienne bergerie en meulière, enfin dans un cadre vraiment assez sympa. Et donc jusqu'à il y a une dizaine d'années, au milieu des terres agricoles, donc une ferme un peu comme on peut en trouver d'autres sur le plateau de Saclay. Et dans un lieu qui est important, puisque c'est un plateau de terre fertile, de terre vraiment d'une très grande qualité, qui ont été accumulés, enfin des sols qui ont été accumulés sur des milliers d'années d'apport de sédiments, donc qui ont créé des couches importantes. Et puis dessous, il y a aussi une petite couche d'argile qui permet de retenir l'eau. Donc on a des sols qui permettent de cultiver même dans les années les plus sèches sans irrigation. Donc c'est vraiment des terres qui seraient à préserver avant tout, quoi.
Justement, tu racontes très bien que de ces 100 hectares en gros consacrés justement à ce type d'expérience de recherche, la colonisation depuis une dizaine d'années a mené à ce que ça réduit comme peau de chagrin, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. En fait, on a, de même que les autres agriculteurs ont vu ces terres disparaître, hein, puisqu'il y a 400 hectares qui ont été récupérés sur l'agriculture, sur la culture, pour créer ce pôle scientifique, mais aussi beaucoup d'immobilier pour accueillir des entreprises. Et donc, dans le lot, les agriculteurs ont perdu, mais l'INRAE a aussi perdu, est passé à 24 hectares, et encore parce que en fait tous les personnels du laboratoire se sont mobilisés pour garder un petit peu de surface sur place, parce que en fait ça choquait personne, même au niveau de la direction de l'INRAE, à un moment donné, que on puisse faire des recherches agronomiques sans aucune capacité à expérimenter localement, avec zéro hectare à proximité. Donc c'est tout le laboratoire qui s'est mobilisé pour essayer de garder 24 hectares pour pouvoir donner un petit peu de sens à des recherches qui se font aussi bien sûr en laboratoire avec des ordinateurs, des calculs, etc.
Mais... Ouais, faut rappeler aussi que bon, il y a AgroParisTech qui a rejoint un petit peu il y a eu quand même une grosse lutte interne, parce que AgroParisTech, c'est donc l'école d'ingénieurs, hein, qui était à Grignon. C'est pas du tout dans le coin, donc ils ont eu quand même pas mal d'années à essayer de résister. Et finalement, eux aussi, ils sont passés de 60 hectares, qui était donc l'ancien site de Grignon, à 6 hectares à Saclay. Voilà.
Exactement. Et puis 60 hectares insérés dans une ferme expérimentale en polyculture élevage de 400 hectares. Dans un contexte agricole qui donne aussi du sens à d'expérimentation. Donc ils se sont retrouvés avec 6 hectares, d'ailleurs de manière un peu fortuite, ils ont failli en avoir du tout. Et donc maintenant, il y a toutes ces unités, donc c'est AgroParisTech, mais aussi l'INRAE, puisque à Grignon, il y avait les deux institutions, l'INRA et puis AgroParisTech pour l'enseignement qui étaient installées, de même qu'il y avait aussi un bâtiment historique rue Claude Bernard à Paris qui a été vendu.
Ouais. Il n'était pas question que Grignon se soit vendu au PSG, non, le club de foot, à un moment donné.
Ah oui, à un moment, il y a eu une rumeur comme ça, oui. Et puis après, l'option, ça a été pendant un moment de le vendre à une entreprise immobilière. Et puis, ben, heureusement, la mobilisation des étudiants et d'une partie du personnel a permis de bloquer la vente, de mettre en évidence quand ça s'était fait dans des conditions qui était illégal, puisqu'ils avaient oublié d'informer les communes sur lesquelles sont les terrains de la perspective de vente, et donc du coup ça a pu être annulé, et là c'est en stand-by et on ne sait pas ce que ça va devenir.
Alors raconte-toi un petit peu le cœur de ton article. Je crois qu'il y a... Tu parles d'un triptyque génétique, robotique, numérique. Quel rapport avec l'agronomie, l'agroécologie? On a un peu de mal à raccrocher les wagons, là. Tu parles des différents programmes de recherche, là, qui ont l'air vraiment bien dotés en millions d'euros, 95 millions d'euros.
Oui, alors c'est assez étonnant, parce que donc, l'agroécologie, comme pratique agricole, comme science aussi, qui vise à associer, à intégrer les connaissances et les régulations qui peuvent se développer dans les écosystèmes, dans la gestion et dans les pratiques agricoles. Donc l'agroécologie, c'est quelque chose qui est à la fois scientifique, mais qui relève de pratiques. Et donc ça fait quelques années qu'à l'INRAE, ça avait été porté comme un axe, et c'était quand même assez intéressant de voir que la recherche s'engageait dans la transition, enfin dans le soutien à la transition des agriculteurs pour des pratiques plus durables, sans intrants extérieurs, chimiques, etc. Et puis, au sortir du Covid, là, en 2021. Donc, il y a eu ce grand plan qui a été annoncé de relance économique, France 2030, avec beaucoup d'argent dans les industries, et notamment les industries dites innovantes, donc le numérique, la robotique, etc. Et du coup, nous, on s'est retrouvés avec... l'agroécologie utilisée comme une sorte d'alibi pour développer des gros programmes technologiques, quoi. Donc il y a eu effectivement dans ce cadre-là ce qu'ils appellent les programmes d'investissement d'avenir, qui sont des programmes de recherche financés par le public mais au service de l'innovation industrielle, on va dire, qui ont été dotés de 877,5 millions d'euros, mais auxquels on peut ajouter aussi 2 milliards d'euros directement venus de France Relance de France Relance 2030. Et donc là-dedans, on va trouver des programmes divers et variés, mais je me suis focalisée sur deux. Donc le premier programme avec 95 millions d'euros, qui est copiloté à la fois par l'INRAE et par l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, l'INRIA, ouais, qui s'appelle Agroécologie et Numérique.
L'INRIA a changé de nom aussi, parce qu'avant ça voulait juste dire Recherche en Informatique et Automatique, et là ils ont changé de nom. D'accord, ok, c'est la grande mode. Ouais, donc c'est deux instituts qui coopèrent, quoi.
Voilà, donc ces deux-là, ils coordonnent agroécologie numérique, et puis il y a l'autre gros programme qui s'appelle Sélection avancée, et donc qui, derrière, là, c'est le côté génétique, génomique, et essentiellement les développer, généraliser et rendre acceptable les nouveaux OGM. Je ne sais pas si vous en avez déjà un peu parlé sur...
Ouais, c'est là aussi un peu une novlangue, on parle de sélection avancée sans justement voilà, pas mettre en avant le côté OGM, quoi. Un peu OGM 2.0. Et alors toi dans ce marigot là, qu'est-ce que tu comment réagissent les chercheurs? J'imagine que c'est pas très facile de mobiliser autour de ces grands projets où il y a plein d'argent, où il y a donc des énormément d'équipes impliquées. Comment on organise un petit peu la résistance à tout ça de l'intérieur, si je puis dire?
Alors, c'est difficile à mobiliser parce que c'est aussi le numérique, enfin toutes les nouvelles technologies, elles sont quand même présentées comme le progrès. Donc on a vite l'air complètement réactionnaire, on est vite accusé de vouloir revenir à la bougie. Si on demande un petit peu de prise de recul, si on porte un regard un petit peu critique. Donc, moi, je suis militante à Sud Recherche, donc et un syndicat affilié à Solidaire. Et en fait, nous, depuis le début, on s'est constitué pour porter un regard critique sur les choix scientifiques qui sont faits. Donc, au sein de Sud Recherche, il y a un discours qui questionne justement cette la disproportion entre les moyens qui sont mis sur les nouvelles technologies et puis les moyens qui historiquement sont très très faibles mis par exemple pour soutenir les pratiques en agriculture biologique qui est quelque chose qui existe dans laquelle il y a des agriculteurs qui sont engagés qui ont des difficultés. Donc on critique la disproportion des moyens, on critique aussi l'absence de questionnement sur ces technologies. Donc on questionne ni les impacts environnementaux, parce que le numérique s'est présenté quasiment comme une dématérialisation. Donc c'est la clé de la transition écologique, enfin ça serait la clé de la transition écologique. Alors que il y a des impacts, des émissions de gaz à effet de serre, il y a une consommation de ressources en minéraux, en minerais, en terres rares, en eau, en énergie, incroyable. Et puis il y a aussi des questions d'éthique, d'appropriation, de perte d'autonomie. Donc c'est, il y a un peu une division, enfin pas une division, mais c'est vrai que c'est au sein de l'institution, les avis sont assez partagés sur ces approches là, quoi. Parce qu'il y a aussi tout l'effet de l'opportunisme d'avoir de tels financements qui va polariser beaucoup d'équipes et de chercheurs et de chercheuses dans cette direction, parce que si c'est là qu'est l'argent, c'est facile d'aller dans cette direction-là, quoi.
C'est un groupe Eritec, certains étudiants qui avaient fait une sortie un peu remarquée, là, annonçant leur bifurcation, pour dénoncer justement l'enseignement un peu complètement biaisé qu'ils recevaient, et qu'ils avaient prononcé un discours public pour dire. C'est au moment de leur remise de diplôme, c'est ça?
Oui, c'est ça, je crois que c'était il y a 2 ans. Il y avait 6 ou 7 étudiants et qui avaient un petit peu médiatisé leurs interventions et ça avait créé vraiment
un petit choc,
un gros choc, exactement, à la fois dans une partie des enseignants chercheurs qui s'y attendaient pas, enfin qui l'ont pris un peu contre eux, qui n'ont pas compris, qui ont dit oui, ils crachent dans la soupe, etc. Et puis de la direction et du monde économique autour qui en fait recrute beaucoup, une grosse partie des étudiants, donc dans les différentes industries, que ce soit l'alimentaire, l'agro-industrie, etc. Et donc oui, ça a créé un séisme et il y a des séquelles, parce que cette année en début d'année, au printemps, les étudiants, il y avait une équipe d'étudiants qui était partie pour organiser la semaine de l'agriculture paysanne, ce qu'ils organisent chaque année.
C'est un gros mot, ça. Ça devient un gros mot, ça, écriture paysanne.
Oui, voilà, c'est un peu le contraire de l'agroécologie numérique. Et donc, ils avaient prévu d'inviter les bifurqueurs. Et la direction, elle leur a mis un veto au début. Donc, ils ont dû négocier. Ils ont eu beaucoup de négociations à faire. Et il n'y a pas très longtemps, il y a aussi un séminaire de travail qui était organisé par un enseignant-chercheur en sciences sociales sur la question de l'engagement du militantisme avec des doctorants qui avaient invité des militants pour discuter de ça. Et en fait, le colloque au dernier moment été annulé par la direction.
Bim.
À la demande du ministre de l'Agriculture qui avait reçu des pressions de la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire.
Ouais, qu'on ne présente plus presque. Peut-être on mettra un bip bientôt.
Donc oui, il y a du débat aussi à l'école, au sein des étudiants, entre les étudiants, les enseignants, entre les enseignants.
Tu parlais tout à l'heure justement de l'agriculture biologique, qui est évidemment délaissée, et tu donnes un chiffre assez impressionnant, parce que si on le rapproche à donc le programme agroécologie et numérique, donc qui est doté de près de 100 millions d'euros, et toi tu rappelles le chiffre que l'INRA consacre à la recherche dans l'agriculture biologique, ça c'est d'avec combien ?
Ben, c'est 500 000 euros, mais c'est une estimation que j'ai faite en prenant... Les projets financés, c'est approximatif.
Tu veux dire que c'est même pas officiel, quoi. T'as dit...
Voilà, c'est pas chaque année. Enfin bon, j'ai regardé ça j'ai fait une moyenne sur les deux, trois dernières années. Et aussi, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que il y a quelques années, l'INRA avait été assez, innovant en disant, enfin en proposant que l'agriculture biologique soit considérée comme un modèle, pas le seul, mais un modèle, un prototype de l'agroécologie, parce que l'agroécologie, ouais, on a des définitions, mais il n'y a pas de, enfin il y en a plusieurs, tout le monde n'est pas forcément d'accord, c'est très polysémique.
Là, tu veux dire que le but n'est pas au centre de tout ça ?
Comment ?
L'agroécologie, ça sous-entend pas que c'est de la culture biologique.
Initialement, c'était la proposition, c'était que l'agriculture biologique soit considérée comme un des modèles et du coup qu'on l'étudie, puisqu'il y a des praticiens, il y a 10% des agriculteurs qui la pratiquent, donc ça existe vraiment, il y a un cahier des charges, c'est transparent, et puis qu'on l'accompagne, qu'on développe des recherches autour de ça. Et puis là, récemment, j'ai entendu... notre direction parler de d'agroécologie et ne pas prononcer une seule fois le mot agriculture biologique. Mmh. Et j'avais questionné l'intervenant pour lui dire mon étonnement, et donc il m'a dit oui, on n'est pas d'accord là-dessus, mais il n'y a pas consensus, et donc il parle plus d'agriculture de conservation des sols, donc qui est une pratique qui est intéressante, mais qui utilise du glyphosate, qui peut être assez conventionnel, qui peut être sur des très grandes surfaces, et il n'évoquait pas l'agriculture biologique.
Mais conservation des sols, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, agriculture de conservation des sols, c'est quelque chose qui est...
Comme dans un musée, tu veux dire, on prend un peu de terre, puis... On...
Non, l'idée, non, c'est de ne pas travailler le sol, ouais, c'est ouais. Ça.
Qu'est-ce que tu peux pas rester très longtemps avec nous, qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Tu me parlais en préparant l'émission, quand je disais justement que c'était difficile de mobiliser, tu me parlais d'un mouvement parmi les chercheurs, parmi les scientifiques, parmi les universitaires, le mouvement pour des savoirs engagés, c'est ça?
Ouais, le MCER, le mouvement des savoirs engagés et reliés,
ouais.
Donc, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est l'idée que c'est intéressant d'aller faire de la recherche entre académiques, donc chercheurs, enseignants-chercheurs, mais aussi avec les acteurs engagés des territoires, donc des associations, des militants, des syndicats, etc., sur des problématiques, en partant des problématiques du terrain et donc en construisant ensemble des savoirs, des connaissances avec des approches qu'on peut qualifier de recherche participative ou de co-construction des savoirs. Et donc ce mouvement-là, il réunit une association dont je fais partie qui s'appelle Sciences Citoyennes.
Ouais, Sciences Citoyennes, ouais.
Milite pour la démocratisation des sciences, la réappropriation des sciences par la société. Et puis plein d'autres, il y a aussi Ingénieurs sans frontières, enfin plein d'autres associations, d'autres collectifs, les ateliers d'écologie politique. Et donc ce mouvement-là, il va organiser des rencontres en octobre. Alors j'ai plus les dates, mais si vous cherchez MCR Mouvement, des savoirs engagés et reliés, voilà, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et avant de vous quitter, il y a quelque chose quand même sur lesquels j'aimerais bien revenir, ouais. Sur ce que cette approche de l'agroécologie, donc cette numérisation de l'agroécologie, ce qu'il y a derrière, quoi. Derrière, c'est une augmentation d'échelle, quoi. Ça amène une forme d'industrialisation de l'agriculture. C'est l'augmentation de la taille des champs, de la taille des fermes, une forme de simplification, une augmentation du nombre d'animaux. Parce qu'en fait, dès lors qu'on robotise, qu'on pense des systèmes et des équipements automatisés, on va pas faire ça pour des carrés de 1,2 hectare, quoi. C'est aussi donc une diminution du nombre d'actifs par ferme, le désinvestissement pour les agriculteurs, donc des emprunts, et la nécessité du coup en retour d'augmenter les rendements, la production pour rembourser les emprunts. Et derrière tout ça, une perte terrible d'autonomie et de maîtrise à la fois financière, mais par aussi le fait que ce sont des outils et des équipements qui sont pas à la portée des praticiens et qui vont les mettre à distance du terrain, à distance du vivant, à distance de leurs plantes et de leurs animaux. Et donc c'est vraiment pour moi, c'est porteur d'une autre forme d'agriculture et d'un modèle qui est très inquiétant, quoi. Et
ça va servir de nouveau carburant pour l'agriculture encore plus intensive, en fait. On va pas en sortir. C'est ça que ça sous-entend.
Oui, voilà. Et puis une perte de toute la dimension vivante, quoi. L'humain, il fait partie de ce vivant dans les agroécosystèmes, et donc là au contraire on le met complètement à distance, et ça tout passe par va passer par des écrans, des tracteurs, des équipements, et plus par du, il y aura plus du tout de ressenti, d'intelligence y compris collective, puisque chacun se retrouve tout seul derrière les écrans de contrôle. Sans parler de toute la question de où vont les données, parce que les données, elles sont pas perdues pour tout le monde. Si les agriculteurs savent pas toujours comment bien les récupérer, les utiliser, il y a d'autres personnes qui les utilisent et se les approprient très bien.
Est-ce que tu peux dire rapidement sur le programme de sélection avancée là sur les nouveaux OGM? On en est juste au début, ou au contraire c'est déjà lancé depuis longtemps? C'est juste une manière de marquer le coup en annonçant un peu la couleur avec des slogans publicitaires?
Non, ça a été lancé à l'automne dernier, donc c'est le début, et c'est un gros coup de fouet, quoi. Enfin, ça, je sais pas si coup de fouet c'est le bon terme, enfin c'est un gros mouvement, quoi. Moi je trouve que c'est assez inquiétant, parce que là-dedans il y a vraiment pas beaucoup de questionnement. C'est vraiment l'idée, la première chose, c'est il faut améliorer l'efficacité de la technique, la rendre plus performante. Il faut aussi la généraliser à plus d'espèces, parce que bien sûr il y a quelques espèces pour lesquelles ça marche un petit peu, mais pas toutes. Et puis le troisième enjeu, c'est il faut rendre ça acceptable par la société, quoi. Et donc il y a vraiment pas beaucoup de place, enfin pas de place pour moi pour du questionnement, de la mise en débat sur aussi quelle transformation ça risque d'apporter, sachant que je sais pas si vous en avez discuté aussi, mais il y a eu un règlement européen qui a été proposé par la Commission européenne et qui a été voté, mais qui là est en stand-by, qui autoriserait la commercialisation de ces nouveaux OGM sans évaluation particulière, sans étiquetage et sans traçabilité. Donc là, voilà, c'est pour l'instant c'est bloqué parce que ils n'ont pas trouvé un accord entre au niveau du Conseil européen, donc là où il y a tous les ministres, et puis le Parlement et la Commission européenne, et puis il y a eu changement de mandature à la Commission européenne, mais là aussi il y a une grosse menace quoi, de il y a des groupes et qui font pression rendre ces nouveaux OGM complètement ordinaires, non traçables, non détectables et non évalués.
Ok. Tu veux rajouter un petit dernier truc ou qu'on a fait le tour ?
Non, là, je crois que j'ai bien fait le tour.
Ok. Donc, toi, ton article est en page 18, donc vers une agroécologie sans champs ni agriculteurs. Voilà, on va faire un petit point avec tes deux collègues tout à l'heure. On te souhaite une bonne soirée et lâche pas, quoi.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
À bientôt, Estelle, salut.
À bientôt.
Alors, messieurs, pour cette première virée dans le monde de l'agriculture numérique, ça vous inspire quoi ?
Déjà, c'était passionnant. Et deuxièmement, je crois qu'on peut dire que c'est emblématique, ce qu'on vient de creuser dans le secteur de l'agriculture, c'est en fait emblématique de ce qu'on pourrait trouver dans la plupart des autres domaines du savoir qui sont censés être développés sur ce plateau, en fait. Chaque fois, il y aura cette interconnexion avec l'industrie, les start-up, des intérêts pas forcément aussi valables que ça pour le bien public. Et j'ai trouvé ça une très bonne entrée en matière, en fait. Un exemple très caractéristique de ce qui se passe là-bas.
Valentin ?
C'est un exemple super concret de comment on essaye d'appliquer des nouveautés sans se poser la question des finalités, quoi.
C'est le progrès, hein.
Voilà, c'est ça, on n'arrête pas le progrès.
Alors, justement, on va passer donc sur les deux sujets que vous avez traités dans le chiffon. Donc, je rappelle pour les éditeurs qui nous rejoignent, les amis d'Orwell, ce soir, sont avec l'équipe du chiffon, un journal intelligent, indépendant de Paris et sa banlieue. Et donc, le dossier de couverture, c'est sur le plateau de Saclay, Paris-Saclay, cet énorme complexe techno-scientifique au sud de Paris, autour de la fac d'Orsay. Alors, en gros, il y a Gif-sur-Yvette à l'ouest, Orsay un peu plus au sud, ensuite, il y a Massy-Palaiseau à l'est, et puis au nord, Saclay, donc c'est comme une espèce de losange ou de losange maudit. Il y a d'ailleurs une super carte, donc en page 8 et 9, une carte signée Cyborg, l'illustrateur, qui figure justement tous les centres de recherche, les entreprises, les bétonneurs, même les supermarchés, il y a tout ce qu'il faut. Alors Emmanuel, toi, donc, tu as signé ce papier du nucléaire au quantique, de quoi Paris-Saclay est-il le nom ? Donc c'est vrai que tu fais un petit historique assez sympa sur... Mais pourquoi on s'acharne sur ce plateau ?
Alors déjà, je voudrais dire que la carte que tu viens de mentionner, c'est la carte du domaine universitaire, qui se trouve à l'intérieur d'un plateau qui est plus vaste, qui est géologiquement coincé, on va plutôt le définir avec la vallée de l'Yvette au sud, donc tu as cité les villes d'Orsay, de Gif, etc. Au nord, il y a la vallée de la Bièvre. Effectivement, Saclay se trouve pile au milieu, si on le regarde comme cela. À l'est, tu vas avoir un massif. Et à l'ouest, une agglomération Versailles-Saint-Quentin. Voilà. Donc le plateau va s'étendre au-delà du simple domaine scientifique. Alors c'est un plateau qui est colonisé par l'industrie et la technologie, aussi en dehors du pur domaine universitaire, hein, typiquement à l'autre bout. Tu as des centres de recherche de l'industrie automobile, tu as le siège de Bouygues, tu as toutes sortes de choses charmantes. Et même un peu plus loin, pas vraiment sur le plateau, tu as le centre de recherche en agronomie de Xavier Niel, qui s'appelle Hectare, je crois.
Xavier Niel a lancé un truc.
Bien sûr.
Ok.
Bah, les gens ont besoin de manger. Donc, Xavier Niel investit aussi dans la viande synthétique, etc. etc. Il est sur tous les bons coups. Donc, voilà. Donc, le plateau est plus vaste. Et effectivement, moi, je me suis surtout intéressé à cette, disons, mon domaine de compétence, qui est cette zone scientifique, hein, où Estelle, qui parlait il y a un instant, intervient aussi. Et donc là, c'est le résultat d'une longue histoire que je ne peux pas forcément tout répéter là maintenant, ça serait très long en fait. Mais c'est intéressant que ça, de déployer cela dans le temps et de voir comment ça s'est
passé. Tout s'est passé autour de la fac d'Orsay en fait au départ. Il y a le CEVA qui s'est installé pas loin.
En premier lieu, on va dire, il y avait déjà, vous voyez, à cause de ce plateau géologiquement situé au sud de Paris, situé au-dessus de Valais, il avait une importance stratégique. Donc il y avait déjà des terrains militaires depuis la fin du 19e siècle, avec ce qu'on appelle des forts, un ensemble de forts. Après la Seconde Guerre mondiale, ces forts ont été immédiatement utilisés, recyclés pour faire des essais de matériel militaire. Ça a donné lieu à l'ONERAM, un centre de recherche en aéronautique et en spatiale. Ouais. Puis un centre d'essai des moteurs aussi, juste à Saclay, de moteurs d'aéronautique.
Recherche pour faire des missiles, en fait.
Voilà. Et donc, juste après la guerre aussi...
Missiles satellites.
Voilà, c'est ça. Et donc, on démarre avec dans l'effort de guerre et dans un esprit, on va dire... Conseil national de la résistance. Hein, vous voyez, il y a à côté une alliance de tout et n'importe quoi. Et c'est Frédéric Joliot-Curie, un militant... communiste qui va avoir le prix Staline pour de la paix.
Parce ça existait, ça, le prix Staline
bien
de
sûr.
La paix.
Et qui va donc très pro-nucléaire, hein, dans cet esprit de la science positiviste de la gauche de l'époque, a contribué à installer donc un centre de recherche sur l'énergie nucléaire dans cet endroit paisible, facilement surveillable, donc à Saclay. Alors, il va être rapidement éjecté à cause de ses opinions politiques et de l'orientation militaire de ce projet. Mais
il va s'écarter de ce projet. Parce
voilà, mais la famille Joliot-Curie est depuis longtemps déjà dans l'univers scientifique français très influente. Elle s'installe aussi dans la vallée de l'Yvette. Elle continue des recherches civiles. C'est des gens qui croient vraiment de manière très très forte à l'intérêt de cette technologie pour le civil. Et donc se développe effectivement la fac d'Orsay, l'université Paris-Sud, elle a changé de nom plein de fois, c'était une faculté, une université Paris-Sud, voilà. Et puis dans la vallée de l'Yvette, donc entre Orsay et Gif, en 2000, on va dire en 2007 pour simplifier, Sarkozy aidé de quelques têtes pensantes a décidé de faire un gros coup immobilier, de remonter cette université qui était dans la vallée sur le plateau agricole, en s'imaginant qu'il n'y avait rien, c'était en fait des terres très fertiles, comme on a vu il y a un instant. Mais dans la tête de ces gens, c'est juste un truc facile, et puis d'urbaniser le campus dans la vallée en faisant une sorte de... en récupérant des sous de cette manière-là. Alors ça ne s'est pas tout à fait déroulé selon ce principe, ça s'est intégré dans le cadre du Grand Paris, un grand projet très très vaste. Il y a une loi qui va avec, donc les trucs sont inscrits dans la loi, c'est une sorte de grand projet qui avance comme un canard sans tête et qui se perpétue, alors que franchement il y a un consensus, je crois, assez clair sur son inutilité, en tout cas pour ce qui est de cette partie-là et de la ligne de transport qui s'appelle la ligne 18, hein, qui est un peu le pendant au sud.
Le Grand Paris Express, c'est ça.
Voilà, c'est ça, le truc inutile, symétrique du triangle de Gonesse.
Exactement. Entre-temps, il y a Polytechnique qui s'est installé en 76, il y a Supélec aussi, donc finalement, le gros projet est venu avec le Grand Paris et Sarkozy, mais c'est vrai que petit à petit, finalement, ça a commencé un petit peu à...
Ça aurait pu arriver avant, de ce que j'ai compris. Donc il y avait l'idée déjà d'après mai 68 de retirer les hauts fonctionnaires, les scientifiques de la mauvaise influence du Quartier Latin. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Il faudrait regarder les documents historiques. Il y avait effectivement des terrains militaires qui étaient prêts à recevoir des équipements. L'école polytechnique, c'est une école du ministère de la Défense. Voilà, mon sentiment, c'est que ça s'est arrêté avec les chocs pétroliers. C'était quand même des projets déjà très dispendieux à l'époque, des dépassements de budget. Les étudiants, évidemment, ne supportaient pas d'être mis dans un endroit si éloigné. Il y avait très peu d'infrastructures de transport. Bref, ça s'est calmé. Et c'est vraiment Sarkozy qui a mis un coup de boost, voilà, à mon avis, hein, sans aucun intérêt pour la science, juste de la com et faire un gros truc avec ses amis des travaux publics.
Et d'ailleurs, Hollande a suivi, hein, évidemment.
Hollande a fait du Hollande, c'est-à-dire qu'il a essayé d'atténuer le truc sans vraiment l'arrêter. Donc c'est devenu... on a cessé de vouloir urbaniser le fond de la vallée de l'Yvette. Il y a un petit peu plus écolo, Hollande, vous voyez. Donc la zone humide, cette vallée inondable. Bon. Donc l'aspect culbute immobilière n'était plus présent. Mais par contre, l'idée de faire un grand projet scientifique n'a pas été arrêtée. Voilà.
Alors, on va comme rappeler à nos auditeurs les plus anciens, les plus aînés, en fait, c'est vrai que cette émission elle existe depuis plus d'une quinzaine d'années, et c'est vrai qu'il y a en gros 10 ans, on a relayé souvent des initiatives de collectifs qui justement luttaient pour arrêter cette stupidité technoscientifique. Europa City au nord, Plateau Saclay au sud, il y avait donc une coordination qui s'appelait la COSTIF, COSTIF. C'était donc voilà, une espèce de réunion informelle de collectifs, d'associations qui se réunissaient justement pour discuter de tous ces projets inutiles en Île-de-France. Et on en a souvent parlé ici même. Valentin, tu peux réagir hein, sur l'aspect historique, si tu as des choses à dire, bien sûr. Hein, c'est...
Oh ben non, mais Emmanuel en parle très bien. Donc ouais. Moi, je suis ni chercheur, ni géographiquement à Saclay, donc il connaît beaucoup mieux l'histoire que moi.
Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Oui, dans l'article, tu parles quand même d'un certain Alexander Grothendieck, un mathématicien.
C'est tout à fait passionnant. En fait, voyez, les choses sont...
Un grand mathématicien.
Un très grand mathématicien. Il y en a eu beaucoup dans cette vallée. Et c'est très intéressant de voir que, de l'intérieur même de la communauté scientifique, on l'a vu d'ailleurs avec Estelle il y a un instant, il y a une sorte de prise de conscience en interne, qui n'est pas forcément majoritaire, mais qui est quand même assez puissante et ancienne. Et donc, Grothendieck était un mathématicien véritablement génial. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, et qui, à l'âge de 40 ans, en 1968, il s'est aperçu que son institut de recherche était financé par l'OTAN, il était très très antimilitariste, apatride, et donc il a tout arrêté réfléchir un peu sur ce que ça veut dire faire de la science.
C'est lui qui a lancé la revue...
Avec d'autres, Vivre, Survivre et Vivre, ça a changé de nom, etc. Avec d'autres dont certains étaient des locaux de cette université, de cet écosystème de sciences. C'est intéressant de voir que même au sein même des institutions qui étudiaient l'énergie nucléaire, il y a eu des syndicalistes, par exemple, enfin des chercheurs syndiqués qui ont réfléchi sur le plan électronucléaire en temps réel et qui ont pris part aux luttes, par exemple, contre Superphénix, surgénérateur dans les années fin 70, années 80, de manière assez déterminante. Voilà, donc c'est pour moi c'est quand même assez réjouissant de voir que voilà tout n'est pas programmé à l'avance. Il se passe des choses inattendues. Et donc ce plateau de Saclay a suscité depuis toujours une forme de critique et d'autocritique en interne assez forte et assez intéressante. Grothendieck est souvent cité en exemple par les mouvements écologistes d'aujourd'hui. Alors pour le meilleur et pour le pire, c'est quelqu'un qui a fini un peu marginalisé, et les mouvements qui ont été pensés dans ces années-là n'ont pas forcément porté leurs fruits, hein. Le fait est que le plateau de Saclay s'est développé exactement à l'inverse de ce que Grothendieck voulait. Hein, si vous voulez, pour fixer les idées, il travaillait dans un institut de recherche qui s'appelle l'IHES, dont le laboratoire de mathématiques porte son nom, maintenant ça s'appelle le laboratoire Grothendieck. L'institut en question est tout à fait intéressant, la recherche qui s'y fait est d'excellente qualité, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour des raisons de financement, c'est quand même de l'argent qui vient d'un mania américain de la finance, hein, qui a gagné, grâce aux mathématiques, énormément d'argent en spéculant sur les monnaies, les trucs comme ça. Là, ce monsieur vient de décéder il y a quelques semaines, et moi, je trouve ça assez curieux, que contre la volonté de Grothendieck, hein, qui avait bien spécifié qu'on devait enlever son nom de tout ce genre d'institution, on continue à s'en revendiquer, donc au cœur même du système technoscientifique le plus officiel et le plus traditionnel.
Alors là aussi, l'écologie, le ver d'être, ça colonise, ça traverse un petit peu la...
Oui. C'était génial d'entendre donc Estelle tout à l'heure parler de robotique agricole et de choses comme ça. Moi, il se trouve que mon domaine d'activité, c'est plus, on va dire, les sciences de l'ingénieur, l'électronique, ce genre de choses. Et à ce titre, je visite souvent les salons de start-up, etc., juste à titre purement d'intérêt technique, hein, pour voir...
voir même sociologique.
Étudiants, voilà, c'est ça, trouver des stages, des choses comme ça. Et donc, typiquement, chaque année, je vais à un truc qui s'appelle le salon Green Tech. J'ai juste retrouvé le bouquin de 2021, mais voilà, donc c'est les start-up labellisées par les instances gouvernementales, ici le ministère de la Transition écologique, mais surtout la Banque publique d'investissement qui finance. BPI, donc, ils sélectionnent chaque année quelques dizaines de start-up qu'elles considèrent donc très impactantes au niveau de l'écologie. Éco-innovante.
Impactante, t'as vu, tu utilises les termes,
oui.
Tu reprends.
Disons, pour le meilleur et pour le pire, et je pense que les gens qui font ce boulot sont sincères, mais par contre, quand on regarde ce que c'est que ces entreprises, et là, si j'ouvre au hasard, je ne vais pas tomber sur celle du plateau de Saclay, mais je peux switcher sur un événement qui a eu lieu il y a un mois qui s'appelle Spring, Paris-Saclay, où il y avait pareil des...
Spring Paris-Saclay,
vous pouvez trouver les documents sur Internet, c'est largement popularisé, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos. Et vous verrez qu'on incite ces fameuses start-up à pitcher. Et même si elles ne sont pas labellisées Green Tech, en fait, l'essentiel d'entre elles, maintenant, se revendiquent de l'écologie d'une manière ou d'une autre. Elles sont même séparées en Clean Tech, pour celles qui s'occupent plutôt du recyclage, ou en Food Tech, pour celles qui s'occupent de, par exemple, fabriquer des protéines avec des insectes, ou des trucs comme ça. Et donc, c'est véritablement un des moteurs principaux de la communication. Disons en tout cas de cette économie de la promesse, hein, c'est un mot, je ne sais plus quel économiste a forgé cela, mais en tout cas c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ces entreprises doivent promettre des innovations et attirer des investisseurs et faire en sorte ensuite que ça marche. Donc c'est un peu, vous voyez, on n'attend pas vraiment qu'il y ait un besoin. On va lancer une mode en espérant ensuite que ça prenne, et ça prend assez rarement, mais quand ça prend, ça peut devenir des très grosses boîtes. C'est ça l'imaginaire de l'écosystème des startups. Alors ce que je remarque, c'est que quand je regarde aussi bien le Spring Paris-Saclay que cet annuaire, eh bien c'est quoi les Green Tech? C'est essentiellement donc de l'analyse de données par satellite, des robots agricoles,
Big Data, quoi.
Mais vraiment sur les 70 startups là, qui sont documentées là-dedans, il y en a peut-être deux qui concerne vraiment une activité où les gens vont mettre les mains dans la terre, voyez. C'est surtout en fait du service numérique
dans le cambouis vert.
Voilà, et donc il y a de la finance verte, bien sûr, hein. Une partie de ces labels concerne la finance verte. Et pour revenir au Spring, je vais juste citer un exemple qui m'a vraiment frappé. L'une des startups qui est mise en valeur par l'écosystème Paris-Saclay, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais elle est à l'interface...
Comme ça, on ne lui fait pas de pub.
Voilà, elle est à l'interface en ce qu'on appelle les fintechs, celles qui parlent de la finance, et les trucs green. Et son job, c'est de mettre l'IA, des outils d'IA, pour que les entreprises puissent remplir leur dossier de...
RSE.
On appelle, RSE ou ESG, voilà, de responsabilité sociétale et
consort.
Voilà. Donc c'est effectivement une bureaucratie qu'on impose aux entreprises de plus d'un certain nombre d'employés, où elles doivent faire une forme de comptabilité verte, etc., etc. C'est effectivement technique à remplir, et donc ces entreprises vont fournir des outils pour automatiser cette bureaucratie. Et là, ce que je trouve vraiment croustillant, c'est en fait, en assistant à un colloque scientifique qui avait lieu justement à l'école polytechnique il y a environ un an, j'ai entendu un professeur, d'ailleurs sa spécialité c'est la finance mathématique, donc il n'est pas vraiment spécialiste du domaine, mais selon lui, les outils d'intelligence artificielle devaient permettre, en miroir de ce que fait cette start-up, d'analyser les dossiers RSE, ESG des entreprises, d'analyser leur communication, ce qu'on appelle le reporting. C'est, tous les mots sont en anglais là-dedans, je préfère les utiliser comme dans la langue que l'on parle dans ces milieux-là. Donc, pour identifier le greenwashing, vous voyez, l'intelligence artificielle va, selon cette personne, permettre de repérer les entreprises qui mentent, qui vont mentir sur leur truc. Et donc, vous voyez, l'IA produit le dossier, elle lit le dossier, je trouve ça absolument fascinant.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Publicis vient de lancer son algorithme pour détecter le greenwashing dans la publicité. Sachez-le, hein, donc on est sauvés.
Ouais, d'une manière générale, dans l'imaginaire de ces personnes-là, il y a l'idée que typiquement une technologie comme l'IA, peut-être on parlera du quantique un peu plus tard, c'est une technologie qui va permettre de créer une forme de croissance économique dématérialisée. Vous voyez, les gens là-bas, on est dans, sur le territoire de Jean-Covici, hein, le plateau de Saclay, c'est Orsay, etc. Jean-Covici, d'ailleurs, qui a dénoncé ce projet dès 2009, dès le début, comme étant absurde. Donc, les gens...
Jean-Covici, c'est le pape de l'association Negawatt, c'est ça?
Non, pas du tout. C'est au contraire...
Ah non.
C'est au contraire quelqu'un qui va promettre une vision très ingénieure de l'écologie, surtout sans politique, juste en faisant des bilans de matière, d'énergie, etc. Il va montrer des contradictions.
Mais pour le coup, bon, je fais pas sa défense et tu fais pas son procès, mais la différence avec ce que tu décrivais, qui est le mythe du découplage ou de l'immatérialité de ces nouvelles croissances, ces nouvelles technologies. Bon, ça, pour le coup, c'est un truc où lui, il ramène les flux physiques qui sont derrière ces choses, ces promesses, soi-disant immatérielles. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une pensée très ingénieure, mais ça a au moins l'avantage de ramener ces réalités physiques sur le tapis, quoi.
Et donc, on peut dire que cette pensée d'ingénieur, disons, les ingénieurs honnêtes, je pense la plupart le sont, sont sensibles aux contradictions internes du système. On brûle trop de pétrole, le système ne boucle pas sur lui-même. Donc, en fait, les gens dont je parle sont conscients de cela. Et donc, ils sont très honnêtement à la recherche d'une croissance qui ne serait pas carbonée. Ils ont bien conscience qu'on ne peut pas continuer à faire du béton. La fabrication du béton, c'est extrêmement générateur de carbone. Et donc, une autre des entreprises du plateau, Bouygues, depuis plusieurs années,
revendique... Le béton vert, c'est ça?
Oui, c'est pire que ça, revendique le mot décroissance. Dans certains... Tu parlais des bifurqueurs tout à l'heure. C'est de plus en plus difficile pour ces grandes boîtes de recruter ce qu'ils appellent des talents. Et donc, du coup, dans les salons de grandes écoles du plateau de Saclay... Je peux vous garantir, j'y vais pas souvent, mais j'y passe de temps en temps, et on peut voir toute une communication spécifique à destination de ces futurs ingénieurs pour les attirer et essayer de leur faire croire qu'ils vont pas tomber finalement chez Total Energy ou quelques entreprises totalement déconsidérées. Et donc Bouygues travaille ça depuis très longtemps, mais on pourrait citer Vinci aussi, qui a une grosse force de frappe de communication là-dessus.
Alors, avant de passer la parole à Valentin, en page centrale du chiffon, là, dans le numéro 13, il y a donc une galerie de portraits, il y a une dizaine de personnes, donc, parce qu'évidemment, faut incarner un petit peu cette révolution numérico-scientifique. Et donc, il y en a certains là, qu'on les connaît, hein, Valérie Pécresse, il y a des politiques, il y a Pécresse, il y a Bourna, qui est donc le maire de Gif-sur-Yvette. Et puis, tu en as un certain, il s'appelle Alain Aspect. Oui. Donc, lui, c'est un diplômé de l'ENS, il a été à Paris-Sud, à Polytechnique. Et les questions à la fin, qu'il ait porté son soutien à un projet Manhattan de la transition écologique. C'est quoi ce truc?
Alors, donc Alain Aspect, c'est avant tout un très grand scientifique qui a fait des découvertes fondamentales en mécanique quantique. En particulier, il a contribué à résoudre des questions véritablement très profondes et très fondamentales sur l'intrication mécanique quantique. Il a eu le prix Nobel pour cela. Il se trouve que ces recherches très fondamentales, dont je dois dire qu'elle ne pourrait plus être développée dans le contexte actuel de l'université d'aujourd'hui, où il y a une forme de court-termisme qui oblige à faire de la recherche sur des projets très courts, de quelques années. C'est lui-même qui le dit. Il le dit que dans le système moderne de l'organisation de l'université, on n'aurait pas laissé quelqu'un faire une recherche profonde de long terme comme ça. Bon, bref, il a fait une découverte, je pense, qui est objectivement super importante. Il se trouve que cette découverte est liée à des potentielles applications dans ce qu'on appelle un peu pompeusement des ordinateurs quantiques. Ça fait rêver le gouvernement, parce que le gouvernement se dit qu'en France, il n'y a plus d'industrie, et que là, grâce à des chercheurs de très haut niveau comme lui, de ce genre de découvertes, la France pourrait peut-être reprendre le leadership.
Ce qui permettrait des vitesses de calcul hallucinantes.
Voilà. Alors, il y a beaucoup de promesses. C'est un sujet vraiment très, très fascinant, parce que les chercheurs, comme Alain Aspect, savent très bien de quoi ils parlent, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. En privé, par contre, là, on est dans l'économie de la promesse.
Ou du fantasme.
Et ouais. Disons que ces gens-là sont, à mon avis, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent ce qu'on peut faire déjà, ce qui relève du fantasme. Ils sont assez lucides, je pense. Par contre, il s'agit de lever des fonds et d'attirer des investisseurs. Là, il est lié à deux startups dont l'une s'appelle Pascal, je crois, et une autre, dont le nom m'échappe, j'ai pas révisé, mais je sais que mettons Pascal, peut-être l'autre, vient de signer par exemple un contrat avec Aramco, la plus grande entreprise pétrolière mondiale en Arabie Saoudite, pour avoir des sous, et eux ils vont apporter effectivement des systèmes qui vont, sur certains types de calculs, apporter, on l'espère pour les investisseurs, un avantage. Il s'agit donc d'extraire les dernières gouttes de pétrole des champs d'Arabie Saoudite à l'aide de ces techniques. Le CEA aussi, dans sa version militaire, plutôt le ministère de l'armée, je crois, a investi dans ces entreprises, parce qu'il y a aussi un potentiel, une potentielle application à la modélisation pour les armes thermonucléaires. Voilà, et donc, vous voyez, l'ambiguïté de la recherche, elle est vraiment bien représentée ici. Il y a de la recherche fondamentale, extrêmement profonde, et je pense unanimement appréciée, qui se décline, qu'on le veuille ou non, dans des applications pas forcément très réjouissantes. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est que le projet Manhattan pour l'écologie? C'est un projet qui est issu de cet écosystème Paris-Saclay et grandes écoles, pour simplifier, qui représente une idée finalement très très classique.
C'est autour de l'informatique quantique, c'est ça?
Alors pour le coup, c'est beaucoup plus général que ça. C'est vraiment l'idée qu'on pourrait appeler technosolutionniste, on est quand même au 21e siècle, on ne peut plus s'afficher comme tel, maintenant c'est complètement has-been. Et donc quand vous allez voir les présentations du projet Manhattan pour l'écologie, la première slide c'est « nous ne sommes pas technosolutionnistes, nous savons parfaitement qu'il faut des décisions politiques fortes, etc. etc. » Mais après, dès la slide numéro 2, on part sur des projets techniques en disant c'est donnez-nous beaucoup, beaucoup d'argent et on va vous fabriquer des super carburants propres, divers trucs, etc. Voilà, donc c'est plutôt. Il est en soutien dans l'esprit de cette démarche. Je ne pense pas que c'est ces technologies à lui dont il pense qu'elles puissent être vraiment utiles pour sauver le climat.
Ok, ouais, y a pas mal de gadgets, on dirait. Alors toi, Valentin, dans l'intelligence artificielle, dans les grands projets structurants qui concernent la France, là aussi il y a du greenwashing un peu partout.
C'est une très bonne transition, parce que Emmanuel vient de parler d'un magnifique problème, donc cette économie de la promesse qui était basée sur le tout nouveau, tout beau, en fait, avant, c'est-à-dire que la nouveauté devient équivalent dans cette pensée libérale ou néolibérale au bien. Ou au beau, quoi, voilà. Et donc on se pose pas la question, c'est nouveau, c'est le progrès, ça s'arrête pas. Et alors moi, c'est parti donc de l'espèce d'hystérie autour de l'IA de ces derniers temps, où j'ai vu donc l'ex-patron de OpenAI, je crois, Sam Altman, qui commençait à demander 7000 milliards de dollars pour pouvoir mener à bien ses projets, etc. 7000 milliards de dollars, etc. Puis donc je voyais que tout ça était relayé en France et que ça s'agitait. Je me suis dit, bon, là, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et j'ai vu qu'en fait, j'ai découvert qu'on avait une stratégie nationale pour l'IA.
Oui, juste pour fixer l'idée, 7000 milliards de dollars, c'est plus que deux fois le PIB de la France.
Oui, 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 bah c'est effectivement, c'est bien de donner un petit ordre de grandeur. Donc voilà, c'est des sommes faramineuses pour développer. On ne sait pas bien quoi, hein, encore une fois. Déjà, on ne sait pas exactement, je pense que c'est l'intelligence artificielle. Ça recoupe énormément de champs de recherche et d'applications différentes.
Là, les 7000 milliards de dollars, c'est pour restructurer la filière industrielle de fabrication des composants, hein, parce qu'il en a marre d'être assujetti à des entreprises comme Nvidia, etc. Il veut fabriquer ces immenses usines de composants électroniques.
Voilà, bah donc vous avez la matérialité de l'IA qui demande voilà, une toute petite somme de 7000 milliards de dollars, etc. Et donc j'ai découvert qu'on avait une stratégie nationale pour l'IA qui, bizarrement, est apparue en 2000.
C'est une priorité, j'imagine, du président.
Alors c'est une priorité nationale, hein, puisqu'on a une stratégie nationale, et qui est apparue en 2018. Donc, ça, c'est une coïncidence, probablement, ou pas. Et donc, je me suis renseigné sur cette stratégie nationale et à l'origine de cette stratégie, on a un rapport qui a été commandé à une équipe de gens, dont des gens du Conseil national du numérique, etc., et qui a été coordonné par Cédric Villani, dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais. Donc, avant qu'il vire sa equity.
Voilà, exactement. Donc là, pour le coup, Cédric Villani, il était chez LREM à l'époque. C'était un macronien. Et je suis allé creuser là-dedans, parce que aussi en mars 2024... on a un nouveau rapport qui est sorti. Alors maintenant, c'est la commission sur l'intelligence artificielle. Alors c'est marrant parce que les initiales, ça fait CIA, qui a pondu ça en mars 2024. Et dans cette commission, on trouve, c'est le coprésident de ce rapport, Philippe Aguillon, qui est un économiste, professeur au Collège de France et qui a participé au programme économique du candidat Macron en 2017. Je le mentionne maintenant parce que c'est important pour la suite. Et alors, dans les deux rapports, en fait, on trouve, on parlait de promesses tout à l'heure, on trouve la proposition suivante, c'est que le développement de l'IA n'est absolument pas incompatible avec l'écologie, il peut tout à fait être écologique. Donc je suis allé creuser.
Parce qu'il faut rappeler que ça consomme énormément d'énergie, les serveurs, tout ce qui est cloud et compagnie, c'est
hallucinant. Il y a la matérialité que Emmanuel a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que on a énormément de composants pour les semi-conducteurs, etc. Ça demande énormément d'eau. La production de ces composants informatiques. Par exemple, il y a eu une sécheresse terrible à Taïwan en 2020, je crois, qui a complètement asséché, c'est le cas de le dire, l'industrie mondiale de ces composants électroniques. Mais voilà, ça pose aussi la question, on l'a aussi à Grenoble avec la lutte contre STMicro Electronics, qui absorbe énormément d'eau pour pouvoir produire ces composants électroniques. Exactement. Et après, en plus, qui peut relarguer plusieurs choses une fois que ça sort de l'usine. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait de l'eau en premier lieu? Est-ce qu'on l'utilise pour les usages nourriciers, vivriers d'agriculture, par exemple, ou les besoins d'eau quotidiens des gens? Ou est-ce que effectivement, on va utiliser des quantités faramineuses d'eau pour cette industrie-là? Voilà, c'est des questions qui me paraissent existentielles, en fait. Et donc je creuse ce premier rapport Villani qui s'intitule donner un sens à l'intelligence artificielle. On se dit c'est bien, ils vont essayer de chercher une finalité à ce truc là. Bon, alors, je vous passe les formules de la Startup Nation qu'on retrouve dans ce rapport. Non, je vais quand même vous en lire deux. Alors, il y a fédérer les acteurs français de l'IA autour d'une marque forte. Fluidifier les parcours d'innovation en IA avec la mise en place de bacs à sable d'innovation. Enfin, voilà. Donc, vraiment, là, c'est au-delà de la novlangue, c'est que pour moi, on est. C'est du Alfred Jarry, quoi.
Sur le plateau de Saclay, l'incubateur s'appelle
Playground. Le bac à sable. Voilà. Bon, ils l'ont traduit probablement pour suivre la loi Toubon, mais ça reste ridicule. Et puis, quand même, je tombe sur une page où, c'est en 2018 quand même, donc sur les constats de l'absorption de ressources absolument insoutenables, déjà en 2018, de l'industrie, enfin les industries digitales, et dans laquelle l'IA s'insère et qu'elle vient nourrir derrière. Et c'est sans appel. Il rappelle vraiment tout ce que ça demande de matière, d'eau, la consommation énergétique, qui déjà à l'époque, on table sur une explosion de la consommation d'électricité, qui n'est pas toujours produite avec du nucléaire, etc. Donc quand c'est avec du charbon, par exemple, bah, les émissions explosent encore. Bref. Et donc... Là, on a c'est comme le fameux rapport Meadows, etc. La tendance va juste à un truc absolument insoutenable, quoi. Mais malgré ça, malgré ce constat, on continue à nous faire cette promesse que grâce, et c'est là que ça, c'est très important de comprendre que c'est ce que Emmanuel a dit tout à l'heure, et Estelle aussi en a parlé, c'est que ce qu'on nous promet en général, quand on gratte, derrière l'aspect écologique d'un produit ou d'un service, c'est toujours les gains d'efficacité. Mmh. Alors, efficacité énergétique ou efficacité d'utilisation de ressources. C'est-à-dire que pour une même puissance ou un même résultat, on va consommer moins d'une ressource. Mais ça, c'est relatif. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y a un gars qui s'appelle Stanley Jevons, qui est un économiste écossais, qui s'est dit, bon, bah, les machines à vapeur, là, ça fait 30 ans qu'on les améliore. C'était 1859, hein, il écrit ça quand même, donc ça fait un petit peu longtemps. Il se demande, vu que les machines à vapeur sont améliorées sans cesse et ont besoin de moins en moins de charbon pour une même production d'énergie, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la consommation de charbon? Ça devrait décroître. Ben non, ça ne décroît pas, parce qu'en fait, quand on réalise une économie, eh ben, elle est utilisée ailleurs. Soit parce qu'il y a plus de machines, le parc de mêmes machines, soit parce qu'on crée des nouveaux usages dans des nouveaux secteurs.
C'est ce qu'on appelle l'effet rebond.
Exactement. Donc ça, c'est le paradoxe Jevons ou l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on peut avoir une économie relative de ressources, mais derrière, avec des nouveaux usages ou tout simplement un effet volume.
Comme on en redemande.
Voilà, eh ben oui, il y a une augmentation du total, largement. Il n'y a pas du tout d'économie nette réalisée. Ça, c'est une illusion.
Ça, fait juste
ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas un seul secteur où c'est arrivé.
D'autant, ça fait juste 150 ans qu'on le sait, quoi.
En tout cas, ça fait 150 ans qu'il y a un type qui l'a bien observé. Ouais. Et puis, ces effets rebonds, on les voit partout. Ouais. Par exemple, quand vous regardez la consommation d'un véhicule aux 100 km, on est autour de 5 litres d'essence. C'est à peu près la consommation de la 2 chevaux en 49. Et quand vous économisez de l'essence et de l'argent avec, vous allez plus loin. Donc au final, vous consommez plus, etc. Donc il y a toujours ce truc-là, c'est que quand on libère une ressource qui est économisée, c'est pas du tout une économie nette, ça va être utilisé ailleurs. Et le problème, c'est qu'en plus maintenant, on est dans un système mondial, donc même si nous, on se serre la ceinture d'une certaine manière, ça n'empêche absolument pas les autres de mettre la main sur une ressource. Enfin bref, donc il y a cet effet rebond qui est mentionné dans le rapport, hein. Ils en parlent, mais ça n'empêche pas que pour eux, ces gains d'efficacité vont permettre la transition écologique. Là, il faut qu'on parle aussi de cette autre illusion et attrape-couillon, quoi, parce que la transition écologique, c'est comme si déjà il y avait une manière de faire. On ne dit pas ce que c'est cette transition, on ne dit pas ce que c'est l'écologie, enfin bref. Donc là, on nage en pleine promesse, floue, oui, vague, voilà.
On reste dans l'économie de la
promesse. Et en fait, quand on rentre dans le détail de ce rapport, mais aussi de tout un tas de discours, de toute manière, il y a une confusion entre entre guillemets, transition écologique, la transition énergétique et la transition digitale. Ces trois termes-là, vous pouvez les prendre dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout, ils se confondent de toute manière. Le sens de l'histoire, nous promettent ces gens-là, c'est de toute manière la digitalisation du monde, l'informatisation du monde, c'est qui peut aussi s'accompagner d'énergie plus propre ou décarbonée, etc. Appelez ça comme vous voulez, et ça va donc dans le sens de l'écologie, puisque l'écologie, évidemment, c'est que des gaz à effet de serre, des trucs comme ça. On oublie évidemment l'extractivisme, les pollutions qui sont absolument irréversibles dans les mines, parce que l'IA, ça accélère encore l'extractivisme et tous ces métaux qu'on va aller chercher aux quatre coins de la planète et qui vont créer des pollutions irréversibles. Ça, c'est un effet.
Et des guerres.
Et des guerres aussi, des guerres de ressources ou du travail des enfants, par exemple au Congo pour le cobalt. Enfin bref, il y a des exemples absolument partout de l'horreur que ça génère localement et que par la distance, c'est vraiment loin des yeux, loin des cœurs, quoi. Comme même en relocalisant une pauvre mine de lithium dans l'Allier, je veux dire, c'est pas ça. De toute façon, il n'y a plus personne dans l'Allier.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce projet-là en ce moment.
Voilà, bref. Et donc, on met tout ça sous le tapis, l'énorme matérialité derrière, les dégâts. Je répète encore ce truc-là, c'est que c'est irréversible. Parce que quand vous creusez une mine et que vous extrayez certains métaux que vous choisissez, au-delà de toute l'énergie que ça utilise, et les émissions que ça génère, il y a quand même un problème, c'est que les montagnes de ce qu'on appelle les stériles, c'est-à-dire tout ce qu'on ne va pas utiliser et qu'on entasse quelque part, ben en fait, avec la pluie, le vent, etc.,
elles sont blindées,
il y a des métaux lourds, il y a des...
l'arsenic ou du cyanure.
Exactement, des trucs toxiques, pour les humains comme pour tous le reste des êtres vivants, et aussi des éléments radioactifs, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, ils étaient tranquillement dans le sous-sol, on les sort, et puis après, ça percole, ça va dans les nappes phréatiques.
Dans les Cévennes, dans le Limousin, il y a quand même des zones entièrement, on ne peut même pas aller se balader, quoi.
Exactement, il y a des zones d'anciennes...
Les métaux, l'uranium...
Exactement, où on constate, tiens, des cancers, des leucémies, etc. Bon, ben ça, c'est une réalité qui est cachée, et encore une fois, c'est irréversible, ces dégâts-là, ils sont irréversibles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaitement au courant de l'insoutenabilité de ce développement industriel. Et ils marchent quand même, ils sont en marche quand même. c'est assez hallucinant de voir ça.
Je crois que ça relève dans la psychologie de... C'est un truc bien identifié quand on persévère dans l'erreur, en fait, quand on a fait vraiment quand on étudie la psychologie des pilotes d'avion, qu'on fait des erreurs,
on va quand même pas reculer maintenant.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'envie d'y croire que ça va passer, etc. C'est souvent d'ailleurs comme ça que c'est formulé. Ça va passer, on va y arriver, ça va être difficile, mais on va y arriver.
Et pour vous donner un exemple de ce qu'on appelle la transition écologique sur le plateau de Saclay. Donc, dans le premier volet de la stratégie nationale pour l'IA, c'était des centaines de millions d'euros qui ont été déversés à gauche et à droite, et notamment plus d'un demi-milliard pour le volet recherche-enseignement.
Sur 4 ans, tu parles de 573
millions. Voilà, exactement. Ça, c'est juste pour le premier volet de ce programme national de recherche pour pour l'IA. Et il y avait, parce que c'est une course à la puissance, en fait, c'est une course à l'échalote où il faut récupérer la puissance,
la puissance de algorithmique.
Voilà, exactement. Il faut rattraper. Alors déjà, ça, c'était l'esprit du rapport Villani, c'est rattraper le retard de la France. Voilà. Alors de l'aveu propre de Villani, on n'a fait que se maintenir avec ce premier volet de la stratégie. Et donc dans les mesures prévues, il y avait le développement, alors pas que avec des entreprises françaises en plus. Je crois qu'il y a IBM qui était dans la construction de ce super calculateur qui s'appelle Jean Zay, quand même, parce que on est français.
Ah ouais, Jean Zay, Front Populaire.
Jean Zay, Front Populaire,
communiste, c'est ça.
Voilà.
Ministre de
la culture, il me semble. Ouais. Et par contre, je me souviens plus de son étiquette.
Ouais. Enfin, il était communiste.
Ouais. Voilà. Et ben donc, ben, il doit être ravi d'être mêlé à un super calculateur qui a été construit avec IBM. Et Et donc, bah, ce super calculateur, je ne veux pas parler technique, hein, parce que non. Déjà, j'y connais rien, mais je voulais juste vous donner les aspects écologiques qu'on nous vend. Mmh. Il a été éco-construit, hein, il a été éco-conçu, puisqu'en fait, on récupère ce qu'on appelle la chaleur fatale, qui est produite par les serveurs, par l'ordinateur, pour chauffer les bâtiments du plateau de Saclay.
Super.
Voilà. Donc, bon, en été, je ne sais pas à quoi ça sert. Il faudra
s'expliquer, par exemple. La chaleur fatale.
Ben, c'est le terme.
C'est le terme,
terme technique.
Le terme technique pour, la chaleur qui, pour désigner la chaleur qui, de toute façon.
Oui, c'est ça. Elle est là, quoi.
Ben, typiquement, voilà. Chez Picard, il y a des frigos, etc. Ça génère de la chaleur fatale. Et,
mais on pourrait se dire, par exemple, que l'énergie qui l'électricité qui va dans le supercalculateur Jean Zay, on le met direct dans les radiateurs du plateau de Saclay. Et, a priori, bon, ben, c'est.
Surtout ce que ça montre, c'est on peut chauffer donc plusieurs dizaines de milliers de logements.
Ouais.
C'est ce qui est annoncé,
ouais,
en tout
ouais,
cas.
Ouais, c'est dit, ouais, ils ont dit 10 000 dans ces eaux-là, quoi.
Mettons 10 000.
Ouais.
Ça montre bien là, l'énorme quantité d'énergie qui est consommée
qui est absorbée par
une machine.
Par une seule machine, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc, on a parlé de l'effet rebond aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans l'idéologie qui est totalement économiciste, c'est-à-dire que c'est ce péché originel de l'économie politique et puis qui s'est de plus en plus mathématisé et qui s'est autonomisé, désencastré du réel, de la société, comme disait l'autre, et qui fonctionne avec ses propres règles en dehors de la physique. On est dans l'idéologie de ce que Schumpeter... l'économiste Schumpeter appelait la destruction créatrice. Et ça, c'est repris par M. Philippe Aguillon, dont je parlais tout à l'heure, qui a inspiré le programme de Macron. Et cette vision-là du mouvement de l'économie dans laquelle il faut avoir une innovation permanente, et c'est ça qui active qui est le moteur de l'économie. Alors Philippe Aguillon, il décrit ça comme le fait que les nouvelles technologies remplacent les précédentes, on a des nouvelles activités qui remplacent les anciennes. Encore une fois, ça c'est faux sur le plan historique. Comment s'appelle-t-il sans transition
Jean-Baptiste Fressoz.
Ouais, Jean-Baptiste Fressoz, notamment, l'a montré, c'est qu'en fait, il y a une symbiose entre
les. Historien.
Exactement. Ouais, historien des techniques.
Et plus précisément, il dénonce l'idée de substitution des techniques qui est confondue. Donc, effectivement, on se chauffe maintenant avec des radiateurs électriques. Avant, c'était avec du bois, je ne sais rien. Mais en fait, si on regarde les bilans de matière qui sous-tendent ces trucs-là, là, pour le coup, on ne voit qu'une superposition et une symbiose.
Tout à fait. En gros, c'est cette fable qu'on nous raconte, qu'on serait passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole à d'autres trucs, etc. Alors qu'en fait, ces matériaux-là et ces sources d'énergie-là n'ont pas du tout disparu. Et sont en symbiose et s'auto-alimentent. Donc lui, par exemple, dans son bouquin, il prend l'exemple du bois qui sert à faire des poteaux de mine pour extraire le charbon. Le charbon qui va servir à tel truc pour extraire du pétrole, etc. Et donc, tout ça est imbriqué en symbiose et s'auto-alimente. Donc, la destruction créatrice, ça c'est pareil, c'est une vue de l'esprit. Mais c'est ce qu'il y a à la racine du projet de stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Ces erreurs qui sont fondamentales sur le plan physique, sur le plan historique, sur le plan économique, même pour un économiste, c'est assez marrant. Et alors, le dernier truc que j'ai vu, c'est que dans cette stratégie nationale pour l'IA, on retrouve... donc cette destruction créatrice, faut lâcher des millions pour innover tous azimuts et faire émerger des nouvelles entreprises. Alors plus, si possible des petites entreprises dans l'esprit de Monsieur Aguillon, parce que c'est ça qui va créer le plus d'emplois.
Mais c'est l'esprit start-up.
Voilà, quels emplois on ne sait pas, mais en tout cas ça nous permettra de se rapprocher du plein emploi.
On part du garage pour aller...
le plein emploi qui devrait être là depuis longtemps vu la quantité d'innovation qu'on a. Bref.
Mais dans l'esprit aussi de Monsieur Aillon, et c'est repris par Emmanuel Macron, il y a aussi calqué le modèle d'une agence américaine qui s'appelle la DARPA. C'est Defense Advanced...
L'agence de recherche du Pentagone.
Voilà, exactement. Et qui, c'est-à-dire le financier du...
En France, on a la DGA. C'est pareil.
Oui, mais c'est très différent parce qu'aux États-Unis, il y a déjà beaucoup plus d'argent et il y a l'idée que tout simplement faire de la recherche, c'est déjà du soft power. Ouais. Et donc, c'est la science elle-même qui a un outil de géopolitique. Alors que la DGA va acheter des techniques. Mmh. C'est pas du tout la même ambition.
Si ce n'est quand même qu'on débouche derrière sur du hard power, parce que quand ils filent des sous à Google ou dans les champs de recherche en intelligence artificielle d'aujourd'hui, ça fait des colosses.
C'est indirect, vous voyez.
Ouais, bien sûr. Il y a du soft et du hard power. Et donc, dans l'idée de M. Aillon, il faut reproduire ce modèle de financement complètement calqué sur le complexe scientifico-militaire américain, avec un modèle d'appel à projet. Et là, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus sur la même chose aussi, entre recherche fondamentale, temps long, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et une volonté d'avoir tout de suite des applications et des débouchés qui donnent des start-up. Et ça, d'ailleurs, on le voit avec la deuxième phase du plan national de recherche en intelligence artificielle, dite phase d'accélération. Alors la petite anecdote, ce super calculateur Jean Zay, de son prénom, que j'ai mentionné tout à l'heure, il était prévu d'augmenter sa puissance de calcul régulièrement, et donc ça demande des travaux quand même, qui empêchent les gens qui bossent sur ce supercalculateur de l'utiliser, fatalement. Et sauf que quand on ne prévient pas les chercheurs cette machine...
C'est l'histoire de ce chercheur-là.
Ouais, c'est triste, un pauvre thésard qui a 2 ans, tout est pour tout, pour faire son travail, qui se fait couper la machine, parce qu'en fait, on a avancé. Phase d'accélération oblige, les travaux d'augmentation de puissance.
Lui, il travaille sur quoi ?
Eh ben, le problème, c'est que lui, il travaille sur le climat. Exactement. Et donc, ce que je vois aussi, c'est que quand on va parler à des gens qui sont spécialisés dans la recherche sur le climat, sur les océans ou la biodiversité, en fait, les crédits, ils ont été donnés tous azimuts. Il n'y a absolument aucune priorité sur la science du climat. Les aspects existentiels de ce bordel dans lequel on est. Et même pire, la Cour des comptes, qui a fait un petit rapport en 2023, nous dit que il n'y a pas eu d'épiphanie écologique du tout avec ce programme-là, même si on nous vendait une IA pour la planète, puisqu'elle dit qu'en fait, il y a un quart des chercheurs qu'elle a sondés qui pensent que l'impact environnemental de la recherche en IA est fondamental. Puis il y a un quart qui s'en fout, il n'est même pas au courant. Donc on est dans un mensonge pur et simple, dans cette fameuse économie de la promesse. Mais simplement, ça commence de plus en plus à se voir. Et donc, pour moi, c'est vraiment le verdissage, quoi. C'est avec la nouvelle novlangue, les nouveaux mots d'ordre pour appeler les investisseurs et rassurer tout le monde, et puis essayer de faire croire qu'on va dans la bonne direction.
Alors, on a presque terminé. On va pouvoir un petit peu prolonger pour discuter après 22h30. On va essayer de conclure ça assez vite. J'aimerais bien quand même qu'on prenne un petit peu de temps pour nous parler de certains pôles midi.
Paul Midi, c'est un sacré animal. Est-ce que tu veux lui...
Est-ce que tu pourrais nous confirmer que déjà son métier est basé sur l'économie de la promesse ? Il a trempé dans toutes les startups les plus cheloues.
Écoutez, je vais vous lire. Donc il faut quand même faire un portrait très rapide, petit CV de Paul Midi. Donc il a fait Polytechnique, ensuite il a été au Jeunesse Populaire de l'UMP, ensuite conseiller municipal UMP, ensuite il est passé par McKinsey, ensuite il a dirigé plusieurs startups.
Carte de visite.
Ensuite, il a dirigé plusieurs startups, dont Frishti. Vous savez, là, les petites boîtes alimentaires transportées par des migrants qui ont des sacs de 20 kilos sur le dos. Ensuite, il est devenu DG d'LREM, La République En Marche, en 2019.
Directeur général, tu veux dire ?
Il avait le titre de directeur général.
Okay.
Mais c'est une entreprise, il le dit lui-même. J'ai dirigé LREM, qui est une autre forme de start-up, une PME innovante de 220 personnes. Voilà, pour voir un petit peu la psyché du type. Et puis, donc, il a été élu contre Cédric Villani dans la circonscription de l'Essonne.
Ah, c'est lui qui, d'accord.
Qui englobe le plateau de Saclay. Avec 19 voix d'écart, mesdames et messieurs, comment a-t-il réussi ce tour de force en faisant passer Cédric Villani, qui faisait partie de l'arc NUPES à l'époque, comme un membre d'extrême gauche? Voilà, donc Cédric Villani, sachez-le, est un horrible soviète qui va dévorer vos enfants.
Il était quand même macroniste pendant 5 ans.
Voilà, exactement, macroniste pendant 5 ans, et puis vous l'avez vu. Alors attendez, parce qu'on continue.
Juste un truc pour la petite histoire. Cédric Villani a été défendre contre les forces de l'ordre des camps de personnes qui étaient, on va dire, des Roms, ou je connais pas exactement la terminologie exacte, le nom du chantier de la ligne 18 et dans cet écosystème de Paris-Saclay. Donc il a mis ses bottes et il a été dans la boue. Au moment de ces élections-là, effectivement, c'est ça qu'on appelle un gauchiste sur le plateau de Saclay, c'est quelqu'un qui va défendre des personnes qui sont dont on détruit les camps, etc.
Mais en tout cas, chez lui, on constate peut-être une évolution récente. Oui. L'histoire nous dira si c'est confirmé derrière. Chez Midi, il n'y a pas d'évolution. En 2023, il a déposé des amendements dans le cadre du projet de loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique pour que chaque Français ait une identité numérique en 2030. En 2024, il a...
France Connect, c'est ça,
Connect, et même Connect Plus maintenant. Double niveau de sécurité. Et en 2024, ça y est, maintenant le décret est passé, donc c'est acté. Le dispositif pour les jeunes entreprises, c'est-à-dire tout un système d'incitation fiscale pour les investisseurs, des exonérations de charges à l'embauche, des aides en trésorerie, etc., des accès privilégiés à la demande publique, sont en place. Et il y a quand même trois types de jeunes entreprises. Donc vous avez compris que c'est pareil, hein, on traduit start-up. Il y a les JEI, c'est-à-dire les jeunes entreprises innovantes. Mmh. Ensuite, on a les JEIC, jeunes entreprises innovantes